La Panacée, une émission qui vous veut du bien. La Panacée, une émission contre tous les maux. Bonjour et bienvenue dans l'émission de La Panacée sur Radio Escapade. Vous le savez, dans cette émission, nous aimons partager notre culture générale sur différentes thématiques de santé et d'hygiène de vie. Aujourd'hui, avec Fab, nous aimerions parler de la fatigue. Ou plutôt des fatigues, car il en existe plusieurs formes. Restez avec nous pour en savoir plus.
Malika Cécile, comment peut-on définir la fatigue ?
Alors, je ne sais pas pour toi, Fab, mais de mon côté, j'ai quand même traversé plusieurs périodes de fatigue intense. Quand je bûchais sur mes partiels, quand je travaillais 50 à 70 heures par semaine en bureau d'études, pendant ou après mes accouchements, ou même après avoir eu le Covid où j'ai traîné une fatigue pendant des mois. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette fatigue que l'on ressent ? Eh bien, la fatigue, c'est un phénomène de notre système nerveux qui fait prendre conscience d'un épuisement des réserves nerveuses ou énergétiques. C'est pourquoi la fatigue peut avoir plusieurs origines. Et une fois que vous avez identifié ces causes, eh bien la prise en charge de la fatigue va être plus adaptée.
Comment différencier une fatigue normale d'une fatigue anormale ?
Alors, se sentir fatigué après avoir fait un effort physique ou une activité intellectuelle intense, eh bien ça, c'est naturel. Dans la mesure où cette sensation va disparaître en se reposant. L'asthénie est une fatigue anormale, lorsqu'elle subsiste même après le repos ou ne disparaît que partiellement. Elle provoque la sensation désagréable et pénible d'être incapable de mener à bien ses activités quotidiennes. Souvent, les personnes interrogées vont utiliser des termes comme lassitude, épuisement, difficulté intellectuelle, des mots comme « je suis lessivé », « je me sens vidé » pour décrire leur état. Si ces symptômes se prolongent pendant plus de 6 mois, dans ce cas-là, on va parler de fatigue chronique ou asthénie chronique. Et donc, à travers mes lectures et les différentes formations que j'ai pu faire, j'ai appris qu'il existe une grande variété de fatigue. La fatigue qu'on appelle mitochondriale, qui va être liée à l'efficacité de notre système énergétique. Il y a la fatigue par carence, la fatigue hormonale, la fatigue de convalescence et la fatigue liée au stress et à l'épuisement nerveux.
Malika Cécile, voyons cela plus en détail. Peux-tu développer la fatigue mitochondriale ?
Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'une mitochondrie ? Les mitochondries sont les centrales énergétiques de nos cellules. Elles permettent de transformer les aliments ingérés en énergie sous forme d'ATP pour adénosine triphosphate. Elle joue aussi un rôle important dans la fabrication des hormones stéroïdiennes. Cependant, de nombreux facteurs peuvent réduire leur efficacité. Alors, comme souvent, il y a l'âge, mais également la pratique d'une activité physique, soit en excès, soit insuffisamment. Et il y a certains facteurs environnementaux, tels que la pollution, le manque de sommeil, le stress chronique, qui vont altérer l'efficacité de nos mitochondries.
Et quelles sont les bases pour permettre un bon fonctionnement de nos cellules énergétiques ?
Il est nécessaire d'avoir une bonne alimentation riche en antioxydants, que vous retrouverez dans les fruits et les légumes de saison. En micronutrition fonctionnelle, il est possible de soutenir ces mitochondries avec ce qu'on appelle le coenzyme Q10, qui va intervenir dans le métabolisme énergétique. Celui-ci est mieux assimilé en présence de gras. Et dans l'alimentation, vous pourrez en retrouver dans les viandes, les petits poissons gras, les noix variées, etc.
Que peux-tu nous dire de la fatigue par carence ?
Alors, les carences nutritionnelles correspondent à un apport insuffisant en nutriments qui sont essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. Par nutriments, on entend macro et micronutriments. Donc, il va y avoir les macros avec les glucides, les protéines, les lipides, et les micronutriments avec les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, etc. L'insuffisance de ces apports peut provoquer de nombreux symptômes, dont une grande fatigue, accompagnée d'une baisse d'énergie. Donc on va prendre quelques exemples pour illustrer ça. Parlons de la carence en fer. C'est une des plus fréquentes. On l'appelle aussi anémie ferriprive. Et elle peut amener à une baisse des globules rouges dans le sang. L'organisme est alors moins bien oxygéné, ce qui génère un état de fatigue. En plus de la fatigue physique et psychique, on peut noter une certaine pâleur, de la sécheresse cutanée, des difficultés à l'effort, des vertiges, des palpitations. Parmi les aliments riches en fer, on peut citer évidemment la viande rouge, mais il y en a aussi dans le poisson, les légumineuses comme les lentilles, dans les huîtres, les moules, la mâche, la roquette, le mûrier blanc, le sésame, le fenouil, les légumes verts comme les épinards, on peut en trouver dans la spiruline, le jaune d'œuf. Donc vous voyez qu'on peut avoir quand même des apports en fer avec une alimentation variée. Un autre exemple de carence qu'on peut avoir, ça va être les carences, des vitamines du groupe B, qui elles sont essentielles à la production d'énergie. Si l'on considère par exemple les vitamines B12 et B9, elles sont impliquées dans la production des globules rouges, le renouvellement cellulaire, la synthèse des protéines et le fonctionnement du système nerveux. Donc rien que ça, ça représente beaucoup de fonctions dans notre corps. Et donc une carence en vitamine B12 va se manifester notamment donc par une fatigue, vous l'aurez compris, une baisse d'énergie, toujours de la pâleur, des difficultés de concentration et de mémorisation. On peut aussi avoir des crampes et des douleurs musculaires, des troubles de l'humeur et une sensibilité accrue au stress. La vitamine B12 provient principalement des aliments d'origine animale. C'est pourquoi le végétalisme, le véganisme, sans supplémentation, peut causer ce type de carence. Les aliments dans lesquels donc, on retrouve principalement les vitamines du groupe B vont être la volaille, la truite, le maquereau. On en trouve aussi dans les céréales complètes, le foie de certains animaux, les huîtres, les moules, le saumon et les fromages. Un autre exemple de carence, ça va être la carence en vitamine C. Elle contribue, elle, à la formation notamment des membranes cellulaires, du collagène, au maintien des dents et des gencives saines, au bon fonctionnement du système immunitaire, à la bonne absorption du fer, à la cicatrisation. Bref, on en a vraiment besoin. Et les symptômes d'une carence en vitamine C sont effectivement de la fatigue, un manque d'énergie, mais il y a aussi la fragilisation des os, une peau qui va être plus sèche, une tendance à être un peu plus irritable, des personnes qui vont cicatriser plus lentement, avoir des gencives saignantes, et une baisse des défenses immunitaires. Alors, pour prévenir les carences en vitamine C, bon, ça c'est un peu plus connu, il suffit de consommer des fruits et des légumes crus, comme les brocolis, les choux de Bruxelles, les agrumes, donc oranges, citrons, pamplemousses. On trouve aussi beaucoup de vitamine C dans les poivrons rouges, les kiwis, les kiwai, et les jus de fruits et légumes frais. Et enfin, parlons du chocolat, enfin non, je veux dire du magnésium. Celui-ci est indispensable à la bonne formation des os et des dents et au bon fonctionnement des muscles et des nerfs. Une carence en magnésium va pouvoir se manifester par des symptômes comme de la fatigue évidemment, mais aussi des vertiges, des nausées, des sensations d'engourdissement, de picotement dans les doigts, peut-être des maux de tête, des crampes ou des douleurs musculaires, des états dépressifs et des troubles du sommeil. Donc au niveau alimentaire, vous trouverez du magnésium dans le chocolat noir, vous l'aurez compris, mais aussi dans les noix, les algues, les légumes verts, etc. Donc aujourd'hui, je vous ai quand même donné pas mal de raisons d'aimer les légumes verts, je crois. Allez, on va faire une petite pause musicale avec Rallumeur d'étoiles d'Ashkal et Saltimbanque, et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de l'émission de La Panacée, une émission qui vous veut du bien.
Un drôle de métier, avec moi embarqué quelques illuminés, des fous. Oh oui, des fous. Je leur ai proposé pour unique salaire de la traînée de poudre d'étoiles polaires, d'accord. Ils m'ont dit d'accord. À la tombée du jour, quand le monde est chaos,
plaquons sort les échelles et les chalumeaux franco. On grimpe là-haut, perché sous les étoiles, givrés que nous sommes. Dans la nuit noire, nous travaillons pour les hommes encore. Nous travaillons encore et encore et encore. Chasseur de comètes, sur chaque étoile filante, un rêveur, un poète qui éclaire ce monde à refaire. Si par un heureux présage, tu levais la tête, grâce aux souffleurs de nuages, tu nous verrais peut-être d'ailleurs. On t'attend ailleurs. Par quitte la ville, ces foutus réverbères, viens nous rejoindre au-dessus des froids de lumière. Embarque, prends place, on t'embarque. On a du boulot pour toi si tu le veux bien. Rallumer les étoiles du soir au matin encore. Les rallumer encore et encore.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Radio Escapade pour la suite de l'émission De la Panacée, une émission qui vous veut du bien. Aujourd'hui, avec Fab, nous parlons des différentes formes de fatigue.
Malika Cécile, que peux-tu nous dire de la fatigue liée au stress ?
Eh bien, une vie quotidienne bien remplie rime souvent avec une sensation de fatigue, appelée aussi asthénie, mais il peut s'agir d'un véritable problème de santé lorsqu'elle devient persistante. Ce qu'il faut comprendre de cette forme de fatigue, c'est comment agit le stress sur nous. Il y a le stress aigu, également appelé un stress positif, qui correspond à une phase d'alarme. Spontané, il survient quand soudainement le corps est soumis à une agression. Elle peut être de toute nature, ça peut être un accident, une maladie, une agression, ou même parler dans un micro à la radio. Donc peut-être au moment même où je suis en train de faire cette émission, mon organisme est dans une phase de stress positif. Et dans cette situation, le cerveau ordonne aux glandes surrénales de fournir de l'adrénaline en suffisance pour qu'un afflux de sang et d'oxygène apporte une certaine puissance aux muscles et augmente la vigilance du cerveau. Le rythme cardiaque peut s'accélérer, les pupilles se dilatent, et cette phase consomme beaucoup d'énergie, mais a probablement sauvé l'espèce humaine fuyant devant ses prédateurs. Et donc, à la fin de cette chronique, heureusement, mon organisme va pouvoir entrer dans une phase de repos-récupération physiologique. Sinon, je risquerais de m'épuiser. Le problème de notre société occidentale, c'est que bien souvent, le stress perdure au-delà de la phase aiguë positive. On entre dans ce qu'on appelle la phase de résistance. Pour faire face à la demande d'énergie supplémentaire que demande cette phase de résistance, le cerveau ordonne aux mêmes glandes surrénales de délivrer ce qu'on appelle des glucocorticoïdes, dont le plus connu est le cortisol. Donc ça va permettre de remobiliser du glucose, donc du sucre, dans le sang. Résultat, les muscles, le cerveau et le cœur sont momentanément en mesure de continuer à résister au stress. Le stress chronique ou stress négatif survient lorsque l'organisme a usé toutes ses ressources adaptatives. Et c'est un cercle vicieux qui se met en place. Le cerveau ordonne en continu la production de cortisol en vue de maintenir l'équilibre interne, mais ce dernier est profondément perturbé par ce flux continu, grand consommateur d'énergie. Il en résulte quantité de désagréments comme une fatigue excessive, un système immunitaire qui devient défaillant, le sommeil qui est complètement perturbé. On peut avoir des problèmes métaboliques comme du diabète, prendre du poids, faire de l'hypertension artérielle. Et ce phénomène s'accompagne d'un besoin de compensation. Donc certains auront de ce que moi j'appelle des sugar blues, c'est-à-dire qu'ils auront envie de sucre le soir pour un peu se redonner un coup de fouet. D'autres iront vers le tabac, l'alcool ou d'autres substances. Et le plus tragique, c'est que dans la recherche d'un coup de boost pour tenir le coup, les personnes vont augmenter leur consommation de café et s'épuiser davantage. En plus de provoquer une fatigue générale de l'organisme, le cortisol libéré en excès lors d'un stress prolongé va perturber la synthèse de neuromédiateurs essentiels à notre bien-être, notamment la sérotonine qui est impliquée dans l'humeur et le plaisir. Et sa diminution risque donc de conduire à des états dépressifs. Donc à ce moment-là survient ce qu'on appelle le burn-out ou syndrome d'épuisement psychique et physique. Et d'un point de vue physiologique, en fait, les surrénales ne peuvent même plus fabriquer de cortisol. Et un matin, la personne ne peut plus sortir du lit. Elle est en incapacité de se lever. Et vraiment, pour récupérer physiquement et émotionnellement d'une telle épreuve, il faut compter parfois 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est très très long.
Que faire en cas de fatigue liée au stress ?
Il existe de nombreuses techniques pour gérer son stress. Déjà, peut-être réorganiser son quotidien et les tâches qu'on a à accomplir pour soulager en fait toute cette demande. On peut aussi pratiquer la cohérence cardiaque, faire du yoga, etc. Et une méthode simple à laquelle on ne pense pas forcément, c'est la luminothérapie. Pourquoi ? Parce que s'exposer tous les jours au soleil pendant environ une demi-heure, c'est une méthode simple et naturelle qui va permettre de remonter notre production de cortisol. En effet, on observe une augmentation de 50% du taux de cortisol lors du passage de l'obscurité à la lumière, et cela en seulement quelques minutes. Il y a aussi la micronutrition fonctionnelle qui peut aider à compenser le déficit en cortisol lorsqu'il a été surutilisé ou lorsqu'il n'est pas produit suffisamment. Donc là, on va avoir le magnésium, les vitamines C et B qui vont permettre cette production de cortisol et aussi de réduire son taux dans le sang en situation de stress chronique. Il y a aussi les aliments riches en zinc, comme les lentilles, le jaune d'œuf, le pain complet, les graines de courge, qui vont aider à réguler notre taux de cortisol. En phytothérapie, il existe de nombreuses plantes qui vont moduler ce cortisol. On peut citer la rhodiole, l'éleutérocoque, l'ashwagandha, et en fait, toutes ces plantes sont des plantes adaptogènes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elles permettent à notre organisme de s'adapter au stress et agissent à de nombreux niveaux pour moduler l'activité des glandes surrénales et soutenir la production de cortisol. Enfin, on peut parler aussi de gémothérapie et on pensera aux bourgeons de cassis qui permettent de stimuler donc cette production de cortisol par les surrénales.
Malika Cécile, pour finir, peux-tu nous parler de la fatigue de convalescence ?
Eh oui. Après toute maladie infectieuse, il y a une période de convalescence durant laquelle notre corps doit se rééquilibrer, reconstituer ses réserves énergétiques. Par exemple, après une fièvre, le corps a consommé de l'énergie et il s'est déshydraté. On a perdu des sels minéraux et aussi de l'eau. Donc du coup, la circulation sanguine et au niveau des capillaires, elle est perturbée. Il y a un manque de volume dans les vaisseaux sanguins et du coup le corps est moins bien oxygéné, le cerveau est moins bien oxygéné et on a une forme de fatigue. Donc après un épisode fiévreux, c'est important de boire beaucoup et de consommer des sels minéraux comme le silicium, le calcium, le magnésium et tout simplement du sodium, mais il faut faire attention à l'abus de sel. Nombreux sont ceux qui ont traversé aussi ce qu'on appelle le Covid long, ou le traversent encore d'ailleurs. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais rappeler qu'à ce jour, on ne connaît pas de lien entre la gravité de l'infection Covid qu'on a pu avoir et le fait qu'il y ait ce Covid long, cette fatigue chronique qui est ressentie ultérieurement. Ce qui veut dire qu'un très grand nombre de personnes peuvent être concernées, peu importe la gravité du Covid contracté. Les formes longues de ce Covid concerneraient, d'après l'OMS, entre 10 et 15% des personnes infectées. Si les symptômes communs disparaissent généralement au bout d'un mois, une partie des malades continue de présenter pendant plusieurs mois une fatigue persistante, la perte de l'odorat, du goût, des difficultés à l'effort avec beaucoup d'essoufflement, des céphalées, des douleurs un peu diffuses, certains présentent même des troubles cardiaques ou ont tendance à perdre l'équilibre, des difficultés pour se concentrer, des troubles de la vision et un peu un état d'anxiété, dépression. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une équipe internationale qui propose une hypothèse pour expliquer ce phénomène. Pourquoi ? Parce qu'elle a constaté que, donc dans son étude, sur 185 patients, il y avait deux tiers qui souffraient du Covid long et qui présentaient une réactivation d'un virus qu'elles avaient contracté auparavant, donc Epstein-Barr, qui est lié à une réponse inflammatoire induite par le SARS-CoV-2. Donc les auteurs suggèrent, sur la base de leurs travaux, que les formes longues de Covid pourraient être en réalité liées à une réactivation du virus d'Epstein-Barr, et non pas simplement le SARS-CoV-2. Mais alors, donc, est-ce que cette observation peut être étendue à d'autres virus dormants que l'on pourrait avoir et expliquer que beaucoup de personnes aient ces symptômes ? Là, il faudrait encore poursuivre les recherches.
As-tu quelques recommandations pour les personnes concernées ?
Alors, j'ai pu lire différentes choses sur le sujet. Certaines personnes se sont senties moins fatiguées après une supplémentation d'un mois en vitamines, minéraux et acides gras. Pourquoi ? Bah parce que ça a permis au système immunitaire et énergétique de se renforcer. Il y a certaines équipes de recherche qui se sont tournées aussi vers l'écorce de pin maritime, tout simplement parce qu'elle est riche en procyanidines, qui sont des tanins au pouvoir antioxydant très très fort. Et des études antérieures ont montré que ce pin maritime était intéressant pour la microcirculation, la protection des parois des vaisseaux. Et des recherches de plus en plus nombreuses s'intéressent à l'intérêt possible de ces antioxydants dans la lutte contre les conséquences du Covid. Après, depuis l'apparition du Covid, enfin même s'il existait depuis longtemps, de nombreux chercheurs se sont penchés sur la compréhension de l'inflammation et de sa cascade de cytokines. Donc on parlait de cascade cytokinique pendant la pandémie. Il ressort que les mitochondries dont on parlait tout à l'heure sont durement éprouvées par cette maladie. Parce que ces petites centrales énergétiques situées au cœur de nos cellules brûlent à chaque instant des sucres, des graisses et de l'oxygène pour produire de l'énergie. Le dysfonctionnement de la respiration mitochondriale pourrait expliquer aussi les formes traînantes du Covid. Certains malades expriment des symptômes aussi neuropsychiatriques sous la forme d'une espèce de brouillard cérébral. Et les mitochondries du système nerveux central exigent des niveaux très élevés d'oxygène pour produire de l'énergie. L'infection au SARS-CoV-2 peut entraîner des troubles neurologiques aussi à long terme en perturbant ce qu'on appelle la microglie, c'est-à-dire le système immunitaire du cerveau. Donc dans les complémentations prometteuses, on pourra citer la NAC, donc la N-acétylcystéine, qui est un micronutriment assez peu connu, et qui joue sur plusieurs tableaux. D'abord, c'est une molécule de choix pour stimuler la synthèse du glutathion, donc ça permet la détox au niveau du foie. Et les virus à ARN comme le Covid ont besoin de diminuer le glutathion dans les cellules pour se répliquer. Donc en apportant du glutathion, bah, finalement on perturbe leur processus de réplication. Par ailleurs, une des conséquences observées de cette supplémentation en NAC est une diminution significative de ce qu'on appelle les TNF-alpha et interleukines pro-inflammatoires. Donc là aussi, c'est intéressant par rapport à cette cascade cytokinique dont on parlait et à toute l'inflammation et les complications qu'on a pu voir dans le Covid. Donc voilà, il me semble, Fab, que nous avons fait le tour des principales formes de fatigue avec des pistes d'accompagnement à chaque fois. Je vous donne donc rendez-vous dans un mois pour une nouvelle émission de La Panacée sur Radio Escapade. C'était Fab et Malika Cécile. Je vous dis à bientôt. La Panacée, une émission qui vous veut du bien. La Panacée, une émission contre tous les maux.